Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque.
Voilà, je suis là parce que votre professeur de philo n'a toujours pas été remplacé. Donc c'est moi qui, en attendant, vais assurer les cours.
La philosophie n'a plus à donner ses raisons. Je pense comme je suis et formulé comme un cri.
Voilà. D'autres questions ?
Lorsque l'État abuse, que faut-il faire ? Lorsque nous sommes convaincus, au fond de notre conscience, que ce que le gouvernement nous dicte de faire est une erreur monumentale, alors est-ce qu'il faut quand même courber les chines ? Derrière ces questions, il y a un petit ouvrage et un concept qu'on va explorer ensemble. Celui de désobéissance civile, théorisé dans les années 1850 par Henry David Thoreau. Écoutez cette devise. Le meilleur gouvernement, c'est le gouvernement qui gouverne le moins. C'est une devise à laquelle je souscris de tout cœur et que j'aimerais voir mettre en pratique plus promptement et plus systématiquement. Lorsqu'on l'applique, elle se résume finalement à ceci, en quoi je crois également. Le meilleur gouvernement est le gouvernement qui ne gouverne pas du tout. Quand les hommes y seront prêts, c'est là le meilleur type de gouvernement qu'ils auront. Le gouvernement n'est au mieux qu'un expédient, mais il arrive souvent à la plupart des gouvernements, et parfois même à la totalité d'entre eux, de se montrer tout sauf expédient. Les objections que l'on a pu faire à l'idée d'entretenir une armée permanente, objections nombreuses et puissantes qui mériteraient valoir, peuvent également être opposées à l'idée d'entretenir un gouvernement permanent. L'armée permanente, au final, ce n'est que le bras droit du gouvernement permanent. Le gouvernement, qui n'est que la modalité selon laquelle le peuple a choisi d'exécuter sa volonté, est lui aussi susceptible d'être sujet à l'erreur ou à la perversion, avant que le peuple ait seulement pu agir par son truchement. Voyez les guerres actuelles. Elles sont l'œuvre d'un nombre relativement réduit d'individus qui utilisent le gouvernement permanent comme leur outil. Le peuple, lui, au départ, n'aurait jamais consenti à cette action. Le gouvernement a moins de force et de vitalité que n'en possède un seul individu, car un individu seul peut le plier à sa volonté. Et il faut bien voir qu'aucun gouvernement n'a jamais de lui-même fait avancer aucune entreprise, sinon en s'effaçant diligemment. Ce n'est pas lui qui assure la liberté du pays, ce n'est pas lui qui civilise l'Ouest, ce n'est pas lui qui éduque. Tout ça, c'est le peuple qui le fait. Pour parler pragmatiquement, et en tant que citoyen, je réclame, contrairement à ceux qui se prétendent anti-gouvernement, non pas la disparition immédiate de tout gouvernement, mais la formation immédiate d'un gouvernement meilleur. Que chaque homme fasse savoir quel genre de gouvernement mériterait son respect, et nous aurons fait un pas vers l'obtention d'un tel gouvernement. Ne peut-il exister un gouvernement dans lequel ce ne sont pas les majorités qui décident virtuellement du juste et de l'injuste, mais la conscience ? Le citoyen doit-il jamais, ne fût-ce qu'un seul instant, abandonner sa conscience au législateur ? Si oui, pourquoi alors avons-nous tous une conscience ? Je pense que nous devrions d'abord être des hommes et des femmes, et ensuite des sujets. Il est moins souhaitable de cultiver le respect de la loi que le respect du bien moral. La seule obligation que j'ai le droit de suivre est celle de faire en tout temps ce que je pense être le bien. On dit à fort juste titre qu'une institution ne possède pas de conscience. Mais une institution d'homme de conscience est une institution qui dispose d'une conscience. La loi n'a jamais en rien rendu les hommes plus justes. Et, par le fait même qu'ils la respectent, même les hommes de bonne disposition se transforment chaque jour en agents de l'injustice. Une conséquence fréquente et naturelle d'un respect indu de la loi est que vous pouvez voir un défilé de militaires, colonels, capitaines, caporals, sergents, soldats, enfants de troupes et tout, marcher en ordre admirable par monts et par veaux vers les champs de bataille contre leur volonté. Oui, et contre leur bon sens, et contre leur conscience. Ce qui rend cette marche bien pénible en vérité et fait bondir les cœurs. Ils n'éprouvent aucun doute quant à la nature odieuse de l'affaire dans laquelle ils se trouvent engagés. Ils sont tous de composition pacifique. Mais que font-ils alors ? Ce sont des hommes, vraiment ? Ou bien de petites forteresses et des arsenaux mobiles au service de quelqu'homme de pouvoir sans scrupule ? Regardez bien ce qu'est un soldat. Voilà le genre d'homme qu'un gouvernement a le pouvoir de créer. À peine une ombre. à peine un souvenir de ce qu'est l'humanité. Un homme exposé vif, debout, mais déjà, pourrait-on dire, enterré. Sous les armes et avec toute la pompe funéraire qui lui sied, et rien d'autre.
Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque.
Voilà, je suis là parce que votre professeur de philo n'a toujours pas été remplacé. Donc c'est moi qui, en attendant, vais assurer les cours.
La philosophie n'a plus à donner ses raisons. Je pense donc je suis et formulé comme un cri.
Voilà. D'autres questions ?